Petit, qui est l'un des participants au festival Sciences Frontières, donc à Cavaillon, début après-demain, astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, On a perdu la moitié d'univers chez Hachette, le dernier ouvrage, et qui est maintenant en poche. Alors, il y a des pistes invraisemblables qui apparaissent dans ces textes du mythe, et en particulier, alors, il y a les univers gemellaires, vous allez nous dire ce dont il s'agit, la courbure de l'univers, les formes des galaxies, comment on pourrait les expliquer, etc. La vitesse de la lumière, qui est l'un des grands mythes, et qui alors serait variable.
Bah écoutez, il y a une chose, c'est que depuis janvier 91, mes travaux, je les mets entre guillemets, parce que c'est des travaux que j'ai fait à partir de ces choses-là, commencent à apparaître dans des refus, pour la science en parle, science et l'avenir, etc., etc. Et à chaque fois, on dit des Américains ont trouvé ceci, des Américains ont trouvé cela, et c'est vrai que c'est un petit peu, il y a de quoi être un peu amer parce qu'on se dit, bon ben voilà mes idées qui commencent à apparaître.
Mais c'est le lot du novateur, mon cher Jean-Pierre.
Sous d'autres noms. Alors il y a un truc par exemple, c'est que il y a un gars qui s'appelle Moffat, qui est un Canadien, qui est persuadé qu'il a inventé le concept de vitesse de lumière variable en 93. Alors que moi j'ai publié en 88-89 des travaux à Modern Physics Letters. Alors je lui ai écrit, il m'a pas répondu. C'est très emmerdant de découvrir qu'on n'est pas le novateur.
Oui. Mais la faute de tout ça, c'est votre patronyme. Petit, il fallait vous appeler grand. Petit reste petit.
Je ne sais pas. En tout cas, vous cherchez un exemple. Oui. Où est-ce qu'on trouve pour la première fois mention de modèle à vitesse de lumière variable dans ces textes limites? Alors, il n'y a pas de problème.
Et donc, qui remonte à quand? À 1950, 1960?
Alors, diffusion, 66.
Oui. 66, 67.
Et là-dedans, toutes ces descriptions sont le modèle de vitesse de lumière variable. Alors, moi, j'ai fait des travaux là-dessus que j'ai publié en 88-89.
Mais sinon, c'est une piste à laquelle vous ne vous seriez jamais arrivé.
Bien sûr que non. Vous vous rendez compte, ça va à la vitesse de lumière, il faut être fou.
Voilà.
Et maintenant, ben, regardez, ça commence à être à la mode. Hein, bon. Et puis, la pluralité cosmique, le fait qu'il n'y ait pas un seul feuillet d'univers, ça commence à être à la mode aussi. Mmh. Doucement, ça vient. Alors, il y a un truc merveilleux, il y a un Américain de New York qui m'a écrit. Lui, il découvre la vertu des particules à énergie négative, autrement dit, l'univers jumeau, quoi. Hein. Mmh. Mais alors, il y a aussi un Chinois, enfin, de Hong Kong, qui travaille, et ils ont découvert mon site internet, ils ont découvert mes travaux là-dedans. Ils ont été stupéfaits parce qu'ils croyaient être en avance alors qu'ils s'apercevaient que je faisais plein de choses. Et à ce moment-là, ils ont cherché Marseille dans un atlas pour savoir où c'était. Ils se sont dit, comment, où est-ce qu'il est, ce type? Ils ont regardé. Il y avait un Chinois et un Roumain qui sont adorables, comme ça. Ils m'ont écrit un message en disant que lorsqu'on a vu vos travaux sur votre site, on s'est à l'avis de chercher où était Marseille.
Alors, pour ceux qui s'intéressent à la science aussi, il y a la recherche sur ce que l'on appelle l'antimatière. Et alors, dans ces textes humides, il apparaît clairement qu'il y ait là encore des indications, puisqu'ils disent c'est à partir de 100 millions d'atmosphères que la matière devient antimatière.
Oui, alors ça c'est une énorme problématique justement. C'est un problème de physique théorique. Et moi, ça m'a été confirmé à Brighton. Je veux dire que les Américains ont fait des expériences de compression thermonucléaire à très haute pression. Ça, c'est normal, parce que quand vous faites des explosifs, vous utilisez ce qu'on appelle les charges creuses. Les charges creuses, vous savez que les charges creuses, ça permet de percer les blindages de chars. Bon, c'était normal de faire des charges creuses thermonucléaires. Pourquoi faire? Pour arriver à atteindre les bunkers. Et vous rappelez que Reagan avait un bunker dans les Rocheuses qui était à 1500 ou 2000 mètres de profondeur. Tout d'un coup, on apprend une chose, c'est que ce bunker est abandonné et que désormais, en cas de guerre nucléaire, Reagan prendra place dans un 747, c'est-à-dire dans un truc un peu vide chocolat. Vous vous rendez compte, on construit un abri à 2000 mètres de profondeur, non, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'on est capable de faire des trous de 2000 mètres. Et comment est-ce qu'on fait ces trous avec ce genre d'armes?
Mais là, de la part des Américains, ils subodorent donc que les Soviétiques soient capables aussi de la même avancée intellectuelle.
Bah, bien sûr, mais c'est pour ça que le site d'Albion, ça ne sert plus à rien. On est capable de faire des gros trous maintenant, et si on fait des gros trous, c'est pas avec des bombes atomiques, c'est avec autre chose. Et moi, j'ai eu confirmation, les Américains détiennent des bombes à antimatière. Et ces bombes à antimatière, elles ont une dangerosité maximale, car on peut réduire leur charge à trois fois rien, à 40 tonnes de TNT, c'est gros comme une balle de golf. Hein, et avec une navette spatiale, on peut arroser un pays avec ce genre de balles de golf et le ravager sans créer d'hiver nucléaire. Donc l'équilibre de la terreur, c'est fini. Vous notez bien ça, c'est une information importante. Nous sommes restés en paix grâce à la monstruosité de nos armes thermonucléaires. Maintenant, ce truc-là est terminé et ça ne se sait pas.
Alors là, en l'occurrence, les humides, quand ils voient toutes ces évolutions, pourquoi continuerait-il, est-ce qu'il continue à communiquer avec nous et nous donne-t-il d'autres éléments pour aller plus loin dans les recherches?
Écoutez, ils ont fourni un maximum d'éléments pendant un certain temps. La grosse question qu'on peut se poser, c'est quand on a des interlocuteurs comme ça, mais qu'est-ce qu'ils peuvent penser? Peut-être qu'ils sont aussi perplexes que nous. Je vous assure que l'incidence que ça a eu sur moi en tant qu'homme, c'est pas de me poser la question de savoir comment est fait un extraterrestre ou que ce soit. C'est un regard sur l'humanité. Je n'avais jamais regardé l'humanité avec le regard que j'ai eu avant d'avoir lu ces textes. Nous sommes des fous.
Oui, mais il n'y a pas que les textes, Jean-Pierre Petit, dans votre ouvrage, enfin l'un de vos ouvrages, Enquête sur les extraterrestres qui sont déjà parmi nous, le mystère des humides, par trois fois. Vous vous retrouvez à vivre des événements personnels, on peut quand même s'y arrêter deux secondes, où là, c'est votre intégrité physique qui est mise en jeu, puisque, alors, j'ai noté, il y a, dans votre maison de campagne, en 1989, alors racontez.
Enfin, je vais raconter une histoire très drôle, parce que là, il y a eu une suite, justement, qui n'est pas connue dans mes livres.
D'accord.
Donc, il y a un passage dans mes livres où j'ai mis souvenir ou rêve. Je me suis dit, je vais tout raconter.
Oui.
Mais là, je me sens pas... c'est un témoignage, c'est mon propre témoignage. Disons qu'à un moment, je m'assoupis et je me retrouve avec une cicatrice. Bon, il y a des histoires comme ça, de gens à qui on a fait des trucs. J'avais un hématome, j'avais un truc déjà cicatrisé. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là?
Et bon, votre femme le constate.
Absolument. Et à ce moment-là, il y a un médecin, un ami que je vais voir, qui me dit, mais c'est une cicatrice profonde. Il y a une sous-cicatrice musculaire, donc on est allé intervenir. C'est pas une éraflure que je me suis fait en m'écorchant. Bon, je ne prends pas ça au tragique du tout. Je me dis, bon, bah...
Ah oui, vous avez quand même un caractère bizarre.
Ah
parce
ouais.
Que moi, ça serait moi, je veux dire.
Quoi faire?
Non, mais je sais pas, mais moi, je tomberais dingue. Enfin, ça m'empêcherait de dormir là, pour un bon bout de temps.
Voilà, hein. Imaginez qu'on vous fasse une intubation pour vous prendre, je sais pas, du sperme ou de l'urine. Bon, bah.
Ce serait peut-être ça. Non, ce serait la première personne qui se décharge.
Oui, voilà. Et là, bon, il y a cette cicatrice, je raconte ça. Pour moi, ça fait partie du folklore. Parce que ça n'est que mon propre témoignage. Et puis, mon livre est traduit au Japon. J'ai un traducteur japonais qui s'appelle Nakajima. Et Nakajima vient, il y a, je ne sais pas, 6-7 ans, passer une année sabbatique en Europe, et il séjourne en particulier en France. Il arrive avec son Provence, où il a loué une maison pendant 3 mois. Et il arrive, et dès qu'il arrive, il me téléphone en disant, Monsieur Petit, est-ce que vous pouvez venir? Je dis, oui, mais c'est dimanche matin, 9h, il y a une urgence. Oui, oui, absolument. Mais vous ne pouvez pas me dire au téléphone? Non, non, je ne peux pas vous dire au téléphone. Et je fais le voir dans sa maison, et dès que j'arrive, il soulève sa chemise, il me dit, la cicatrice, c'est la même. On était écroulés. Alors, on ne savait pas quoi faire. Je l'ai emmené aux urgences d'Aix. Je lui ai dit, écoutez, dites que vous avez été agressé. Alors, il est allé se faire examiner. Vous imaginez, un dimanche matin, le type arrive avec une griffure de chat, une cicatrice, un éterne, regarde ça, lui a fait un petit certificat pour...
Et vous, en tant que scientifique, à ce moment-là, vous n'avez pas envie de vous précipiter vers un de vos amis dans un laboratoire et de faire une auscultation à l'IRM,
je ne sais pas quoi. J'avais un ami, exactement, mais j'avais un ami qui aurait pu faire des tas de trucs, mais il est mort. Mais vous imaginez arriver à l'hôpital de Marseille avec un type qui a juste une petite cicatrice de rien du tout en disant voilà, je voudrais qu'on fasse une IRM, je voudrais qu'on fasse
Ah non, mais non, là c'est battu, là dans ce cas-là, c'est battu.
Là, c'est battu. Alors, le truc, c'est que Nakajima ressort avec son certificat, il dit c'est mieux que rien, j'ai dit c'est tout ce qu'ils ont fait, ils dit non, ils m'ont fait une piqûre anti-tétanique. Ils n'avaient pas de sérum anti-extraterrestre. Non, mais c'est folklore, hein, parce que franchement. Alors, le truc, c'est, on peut dire, ce japonais, il sait fabriquer cette cicatrice, ceci. C'est compliqué aussi, ça.
Bah oui, là, après, c'est l'extrapolation que l'on peut faire par rapport à ceux qui ont des stigmates et où on dit que c'est le psychisme qui l'emporte. Alors nous sommes avec Jean-Pierre Petit, astrophysicien, directeur de recherche au CNRS. On a perdu la moitié de l'univers. Chachette.